Chapitre 6. Établissement du christianisme dans la Gaule. Quand le christianisme commença à pénétrer dans la Gaule, il y trouva deux religions très différentes entre elles et infiniment plus différentes de la religion chrétienne, le druidisme et le paganisme, hostiles l'un à l'autre, mais d'une hostilité politique et étrangère aux questions vraiment religieuses que le christianisme venait soulever. Considéré comme une religion, le druidisme était un mélange confus dans lequel les notions instinctives du genre humain sur l'origine et la destinée du monde et de l'homme s'alliaient aux rêveries orientales de la métempsychose, cette prétendue transmigration successive des âmes immortelles dans des êtres divers. Cette confusion se compliquait de traditions empruntées aux mythologies de l'Orient et du Nord, des restes obscurs d'un culte symbolique rendu aux forces matérielles de la nature et de pratiques barbares telles que les sacrifices humains en l'honneur des dieux ou des morts. Les peuples auxquels manque le développement savant du langage et l'art de l'écriture n'arrivent pas à des croyances religieuses systématiques et fécondes. Rien n'indique que, depuis l'époque où les Gaulois apparaissent dans l'histoire jusqu'à celle où ils entrent en lutte avec Rome conquérante, l'influence religieuse du druidisme eût fait faire aux mœurs et à la civilisation gauloise aucun notable progrès. Une croyance générale et énergique, quoique vague et incohérente à l'immortalité des âmes, en était le plus noble caractère. Mais à ces rudiments religieux, à la fois grossiers et mystiques, se joignaient dans le druidisme deux faits considérables. Les druides formaient une véritable corporation ecclésiastique qui avait, dans la société gauloise, des attributions déterminées, des mœurs spéciales, une existence à la fois distincte et nationale. Et dans les guerres contre Rome, cette corporation devint le représentant le plus fidèle et le défenseur le plus persévérant de l'indépendance et de la nationalité gauloise. Les druides étaient bien plus un clergé que le druidisme n'était une religion, mais ils étaient un clergé organisé et patriote. Ce fut surtout à ce titre qu'ils exercèrent dans la Gaule une influence qui subsistait encore, surtout dans la Gaule du Nord-Ouest, à l'époque où le christianisme arrivait dans les provinces gauloises du Midi et du Centre. Le paganisme gréco-romain était à cette époque bien plus puissant dans la Gaule que le druidisme, et pourtant, il y était bien plus froid et plus dépourvu de toute vie religieuse. Il était la religion des conquérants et de l'État, et investi à ce titre d'une force réelle. Hors de celle-là, il n'avait que la force des habitudes et des superstitions populaires. Comme croyance religieuse, le paganisme latin était profondément vain, indifférent et disposé à laisser vivre toutes les religions dans l'État, pourvu qu'elles fussent indifférentes à leur tour, du moins envers lui, et qu'elles ne vinssent pas agiter l'État, soit en n'obéissant pas à ses maîtres, soit en attaquant ces vieux dieux morts et ensevelis sous leurs autels encore debout. Telles étaient les deux religions avec lesquelles, en Gaule, le christianisme naissant avait à lutter. Et comparé à elle, il était, selon les apparences, bien petit et bien faible, mais il était pourvu des armes les plus efficaces pour les combattre et pour les vaincre, car il avait précisément les forces morales qui leur manquaient. Au lieu d'être, comme le druidisme, une religion exclusivement nationale et hostile à tout étranger, le christianisme proclamait une religion universelle, exempte de toute partialité locale et nationale, s'adressant à tous les hommes au nom du même Dieu et offrant à tous le même salut. C'est l'un des faits les plus étranges et les plus significatifs de l'histoire que la religion la plus universellement humaine, la plus étrangère à toute autre considération que celle du droit et du bien du genre humain tout entier, qu'une telle religion, dis-je, soit sortie du sein de la religion la plus exclusive, la plus rigoureusement et obstinément nationale qui est parue dans le monde, le judaïsme. Tel a été pourtant le berceau du christianisme, et cet immense contraste entre l'essence de la religion chrétienne et son origine terrestre a été certainement l'un de ses plus puissants attraits et de ses plus efficaces moyens de succès. Contre le paganisme, le christianisme était armé de forces morales non moins grandes. en face des traditions mythologiques et des allégories poétiques ou philosophiques du paganisme, apparaissait une religion vraiment religieuse, uniquement préoccupée des rapports de l'homme avec Dieu et de son avenir éternel. À l'indifférence païenne de l'Empire romain, les chrétiens opposaient la profonde conviction de leur foi, et non seulement leur fermeté à la défendre contre tous les pouvoirs et tous les périls, mais leur ardeur passionnée à la répandre, sans autre motif que le besoin d'en faire partager à leurs semblables les bienfaits et les espérances. Ils affrontaient, ils acceptaient le martyre, tantôt pour rester eux-mêmes chrétiens, tantôt pour faire autour d'eux d'autres chrétiens. La propagande était pour eux un devoir presque aussi impérieux que la fidélité, et ce n'était pas en souvenir de mythologies vieilles et usées, c'était au nom de fées et de personnages récents, pour obéir aux lois émanées d'un Dieu unique et universel, pour accomplir et poursuivre l'histoire contemporaine et surhumaine de Jésus-Christ, Fils de Dieu et de l'homme, que les chrétiens des deux premiers siècles travaillaient à convertir à leur foi le monde romain. Marc Aurèle s'étonnait avec mépris de ce qu'il appelait l'opiniâtreté des chrétiens. Il ne savait pas à quelle source ces héros obscurs puisaient une force supérieure à la sienne, quoiqu'il fût à la fois un empereur et un sage. On ne saurait assigner avec précision l'époque des premiers pas et des premiers travaux du christianisme dans la Gaule. Ce ne fut point d'Italie, ni dans la langue et par des écrivains latins, mais d'Orient et par les Grecs qu'il y vint d'abord et qu'il commença à s'y répandre. Marseille et les diverses colonies grecques, originaires de l'Asie mineure et établies sur les rives de la Méditerranée ou le long du Rhône, furent la voie que suivirent et les lieux où portèrent leur enseignement les premiers missionnaires chrétiens. Les lettres des apôtres et les écrits des deux premières générations de leurs disciples sont à cet égard des preuves évidentes et permanentes. Dans l'Occident de l'Empire, spécialement en Italie, les chrétiens, à leur première apparition, furent confondus avec les juifs et compris sous le même nom. L'empereur Claude, dit Suétone, chassa de Rome en l'an 52 de l'ère chrétienne les juifs qui, sous l'impulsion de Crestus, s'agitaient incessamment. Après la destruction de Jérusalem par Titus en l'an 71, les juifs, chrétiens ou non chrétiens, se dispersèrent dans l'Empire. Mais les chrétiens ne tardèrent pas à se signaler par leur ardeur religieuse et à entrer partout en scène sous leur propre et vrai nom. Lyon devint le principal foyer de la prédication et de l'association chrétienne dans la Gaule. Dès la première moitié du IIe siècle, une congrégation chrétienne y existait, organisée en église et déjà assez importante pour être, avec les églises chrétiennes d'Orient et d'Occident, en correspondance intime et fréquente. C'est une tradition généralement admise que le premier évêque de Lyon, saint Potin, lui fut envoyé d'Orient par l'évêque de Smyrne, saint Polycarpe, disciple lui-même de saint Jean. Ce qui est certain, c'est que l'église chrétienne de Lyon donna à la Gaule ses premiers martyrs, parmi lesquels fut compris l'évêque saint Potin. Ce fut sous le plus philosophe et le plus consciencieux des empereurs, Marc Aurèle, que s'accomplit pour la première fois dans la Gaule contre le christianisme naissant cet acte de tyrannie et de barbarie qui devait se renouveler si souvent et pendant tant de siècles au sein du christianisme lui-même. Dans les provinces orientales de l'Empire et en Italie, les chrétiens avaient été déjà plusieurs fois persécutés, tantôt avec une cruauté froide, tantôt avec un peu d'hésitation et d'embarras. Néron les avait fait brûler dans les rues de Rome en les accusant de l'incendie qu'il avait lui-même allumé. Et, peu de mois avant sa chute, Saint-Pierre et Saint-Paul avaient subi à Rome le martyre. Domitien avait poursuivi et mis à mort les chrétiens jusque dans sa propre famille et quoique revêtu des honneurs du consulat. L'honnête Trajan, consulté par Pline, le jeune sur la conduite qu'il devait tenir en Bithynie envers les chrétiens, lui avait répondu: il n'est pas possible d'établir dans cette sorte d'affaire une règle certaine et générale. Il ne faut pas faire de recherche contre eux, ni recevoir de dénonciations sans signature. S'ils sont accusés et convaincus, il faut les punir. Pour qu'ils fussent punis, il suffisait qu'ils fussent convaincus d'être chrétiens. et ce fut Trajan lui-même qui condamna Saint Ignace, évêque d'Antioche, à être mené à Rome et livré aux bêtes, par ce seul motif qu'il était hautement chrétien. Marc Aurèle, non seulement en vertu de sa conscience philosophique, mais à raison d'un incident de son histoire, semblait devoir être plus éloigné que tout autre de persécuter les chrétiens. Pendant l'une de ses campagnes sur le Danube, en l'an 174 de Jésus-Christ, son armée souffrait cruellement de fatigue et de la soif. Au moment où elle était prête de s'engager dans une grande bataille contre les barbares, une pluie abondante survint qui rafraîchit les soldats romains et les remit en train de vaincre. Il y avait dans l'armée romaine une légion, la 12e, dite la Mélitine ou la Foudroyante, qui comptait beaucoup de soldats chrétiens. Ils rendirent grâce de la pluie et de la victoire au Dieu unique et tout-puissant qui avait exaucé leur prière, tandis que les païens en faisaient honneur à Jupiter pluvieux et foudroyant. Ce bruit chrétien se répandit et s'accrédita dans l'Empire, à ce point qu'on attribua à Marc Aurèle une lettre dans laquelle, sans doute à raison de cet incident, il interdisait les poursuites contre les chrétiens. Tertullien, témoin contemporain, parle de cette lettre avec pleine confiance et les écrivains chrétiens du siècle suivant n'hésitaient pas à la regarder comme authentique. Aujourd'hui, un examen sérieux du prétendu texte qui en est resté ne permet pas de lui reconnaître ce caractère. Quoi qu'il en soit, les poursuites contre les chrétiens ne furent point interdites, car ce fut en l'an 177, c'est-à-dire 3 ans seulement après la victoire de Marc Aurèle sur les Germains, qu'eut lieu en Gaule, sans doute d'après ses ordres, la persécution qui fit à Lyon les premiers martyrs gaulois. Ce fut la 4e ou, selon d'autres, la 5e des grandes persécutions impériales contre les chrétiens. La plupart des récits de martyrs ont été écrits longtemps après l'événement et sont devenus des légendes chargées de détails souvent puérils ou dénués de preuves. Les martyrs de Lyon, au IIe siècle, ont, pour ainsi dire, écrit eux-mêmes leur histoire. Ce sont leurs compagnons, les témoins oculaires de leurs souffrances et de leurs vertus qui les ont racontées dans une longue lettre adressée à leurs amis de l'Asie mineure et écrite avec une sympathie passionnée et une pieuse prolixité, mais qui porte les caractères de la véracité. Je tiens, mes enfants, à mettre sous vos yeux ce document qui nous a été conservé presque entier dans l'Histoire ecclésiastique de Zèbe, évêque de Césarée au IIIe siècle, et qui vous fera connaître mieux que toutes les réflexions modernes l'état des faits et des âmes au milieu des persécutions impériales et la puissance de foi, de dévouement et de courage que les premiers chrétiens ont opposé aux plus cruelles épreuves. Les serviteurs de Christ, qui habitent à Vienne et à Lyon, en Gaule, aux frères établis en Asie et en Phrygie, qui ont la même foi que nous et la même espérance de la rédemption, soit paix, grâce et gloire de par Dieu le Père et Jésus-Christ notre Seigneur. Nul ne pourrait vous exprimer en parlant ni vous exposer pleinement en écrivant la gravité de nos misères, la fureur et la rage des gentils contre les saints et tout ce qu'ont souffert les bienheureux martyrs. Notre ennemi se rue sur nous avec toute l'impétuosité de ses forces et il nous donne déjà le pressentiment et le commencement de toute la licence avec laquelle il veut nous attaquer. Il n'a rien négligé pour dresser contre nous ses agents, et il les exerce par une sorte de travail préalable contre les serviteurs de Dieu. Non seulement nous sommes chassés des édifices publics, des bains, du forum, il est interdit à tous les nôtres de paraître publiquement dans un lieu quelconque. La grâce de Dieu a lutté pour nous contre le diable, en même temps qu'elle a soutenu les faibles, elle a opposé aux démons, comme autant de colonnes, des hommes forts et vaillants, en état d'attirer sur eux-mêmes toutes ces attaques. Ils ont eu à supporter toutes sortes d'opprobres. Ils ont considéré comme peu de choses ce que les autres trouvent dur et funeste, et ils n'ont pensé qu'à aller à Christ, prouvant par leur exemple que les souffrances de ce monde ne méritent pas d'être mises en balance avec la gloire qui doit se manifester en nous. Ils ont souffert d'abord tous les outrages que pouvait accumuler sur eux le peuple, les clameurs populaires, les coups, les vols, les spoliations, les pierres lancées sur eux, l'emprisonnement, tout ce que la fureur de la multitude peut inventer contre des ennemis détestés. Amenés ensuite au forum par le tribun militaire et les magistrats de la cité, ils ont été interrogés devant tout le peuple et jetés en prison jusqu'à l'arrivée du gouverneur. Celui-ci, dès que les nôtres ont paru devant lui, s'est livré contre eux à toutes sortes de violences. Alors s'est avancé l'un de nos frères, Vétus et Pagatus, plein de charité envers Dieu et son prochain, et qui menait une vie pure et sévère, tellement que, bien que jeune, on le tenait pour égal au vieux Zacharie. Il n'a pu souffrir qu'on portât contre nous un jugement si injuste, et, saisi d'indignation, il a demandé qu'il lui fût permis de défendre ses frères et de prouver qu'il n'y avait en nous rien d'irréligieux ni d'impie. Les assistants autour du tribunal, parmi lesquels il était connu et célèbre, se sont récriés contre lui. Et le gouverneur lui-même, irrité d'une demande si juste, s'est borné à lui adresser cette question. « Es-tu chrétien ?» Il s'est alors déclaré chrétien à haute voix, et il a été rangé au nombre des martyrs. On a commencé ensuite à examiner et à classer les autres. Les premiers, fermes et bien préparés, ont fait de tout cœur la solennelle confession de leur foi. D'autres, mal préparés et peu affermis, ont montré qu'ils n'étaient pas de force à soutenir un tel combat. Environ 10 d'entre eux sont tombés, ce qui nous a causé une peine et un deuil incroyables. Leur exemple a brisé le courage de quelques autres qui, n'étant pas encore emprisonnés, bien qu'ils eussent déjà beaucoup à souffrir, se tenaient auprès des martyrs et ne s'éloignaient pas de leurs yeux. Nous avons tous alors été pénétrés de crainte quant à l'issue de l'épreuve, non que nous eussions grand peur des tortures qu'on infligeait, mais parce que, pressentant le résultat d'après le degré de courage des prévenus, nous redoutions bien des chutes. On arrêtait tous les jours ceux de nos frères qui étaient dignes de remplacer les faibles, tellement que tous les meilleurs des deux églises, ceux qui les avaient fondés par leurs soins et leurs ailes, se trouvèrent pris et détenus. On arrêta aussi quelques-uns de nos esclaves, car le gouverneur avait ordonné qu'ils fussent tous mandés en public, et cela, redoutant les tortures qu'ils voyaient subir au sein et excités par les soldats, nous accusèrent mensongèrement d'actes odieux, tels que les repas de Thieste, les incestes d'Œdipe et autres crimes qu'il n'est pas permis de dire ni même de penser, et dont nous ne pouvons nous résigner à croire que des hommes se soient jamais rendus coupables. Ces bruits, une fois répandus parmi le peuple, les personnes même qui jusque-là, peut-être pour des raisons de parenté, s'étaient montrées modérées envers nous, ont éclaté en amère indignation contre les nôtres. Ainsi a été accompli ce qui avait été prédit par le Seigneur. Le temps vient que quiconque vous fera mourir croira rendre service à Dieu. Depuis ce jour, les saints martyrs ont souffert des tortures qu'aucune parole ne saurait exprimer. La fureur de la multitude, du gouverneur et des soldats s'est surtout exercée contre Sanctus, diacre à Vienne, contre Maturus, encore néophyte, mais déjà vaillant champion de Christ, contre Attale aussi, né à Pergame, mais qui a toujours été une des colonnes de notre Église, contre Blandine, enfin, en qui Christ a fait voir que les personnes qui paraissent viles et méprisées des hommes sont précisément celles que Dieu tient en plus grand honneur à cause de l'excellent amour qu'elles lui portent et qui se manifeste dans leur ferme vertu, non dans de vaines apparences. Nous tous, et même la maîtresse ici-bas de Blandine, qui combattait vaillamment avec les autres martyrs, nous redoutions que cette pauvre esclave, faible de corps, ne fût pas en état de confesser librement sa foi. Mais elle fut soutenue par une telle vigueur d'âme que les bourreaux, qui, du matin au soir, lui firent subir toutes sortes de tortures, échouèrent dans leurs efforts et se déclarèrent vaincus, ne sachant plus quel supplice lui infliger, et s'étonnant qu'elle vécût encore, son corps transpercé et fracassé par tant de tourments dont un seul eût dû suffire pour la tuer. Mais cette bienheureuse, à l'instar d'un vaillant athlète, reprenait courage et force en confessant sa foi. Tout sentiment de ses douleurs disparaissait, et le calme lui revenait à ses seules paroles. « Je suis chrétienne, et il ne se fait rien de mal parmi nous. » Quant à Sanctus, les bourreaux espéraient qu'au milieu des tortures qu'il lui infligeait, les plus atroces que puissent inventer les hommes, ils lui entendraient dire quelque chose d'inconvénient et d'illicite, mais il leur résista si fermement que, sans jamais dire son nom, ni celui de sa nation ou de sa cité, ni s'il était esclave ou libre, il répondait uniquement, en langue romaine, à toutes leurs questions, « Je suis chrétien. » C'était là pour lui son nom, sa patrie, sa condition, tout son être, et jamais les gentils ne purent lui arracher une autre parole. La fureur du gouverneur et des bourreaux en redoubla contre lui, et ne sachant plus comment le torturer, ils appliquèrent sur ses membres les plus délicats des lames de fer rouge, ses membres brûlés, mais lui, debout et inébranlable, persistait dans sa profession de foi comme si des eaux vives sorties du sein de Christ se répandaient sur lui et le réconfortaient. Quelques jours après, ces impies recommencèrent à torturer le martyr, croyant que s'il lui infligeait sur ses plaies enflammées les mêmes douleurs, il triompherait de lui, qui semblait ne pouvoir supporter seulement le contact de leurs mains. Ils espéraient aussi que le spectacle de ce vivant torturé effrayerait ses compagnons. Mais, contre l'attente générale, le corps de Sanctus, relevé tout à coup, se tint debout et ferme au milieu de ses tourments répétés, et il recouvra son ancienne apparence et l'usage de ses membres, comme si, par la grâce divine, ce second déchirement de sa chair l'avait guéri au lieu de le supplicier. Quand les tyrans eurent ainsi usé et épuisé leurs tortures contre la fermeté des martyrs que soutenait Christ, on les jeta dans le lieu le plus obscur et le plus insupportable de la prison. On leur tira et resserra les pieds jusqu'à la plus extrême extension des nerfs. Les geôliers, comme excités par le démon, s'appliquaient à les tourmenter de toutes les façons, à tel point que plusieurs d'entre eux, pour qui Dieu voulut cette fin de leur vie, moururent suffoqués dans la prison. D'autres, qui avaient été torturés de telle sorte qu'on ne croyait pas possible qu'ils vécussent plus longtemps, dépourvus de tout remède et de tout secours des hommes, mais soutenus néanmoins par la grâce de Dieu, restèrent sains et forts, de corps comme d'âme, et ils consolaient et ranimaient leurs frères. Le bienheureux Potin, qui administrait alors l'épiscopat de Lyon, plus que nonagénaire et si faible de corps qu'il pouvait à peine respirer, fut porté lui-même devant le tribunal, tellement usé par la vieillesse et la maladie qu'il semblait près de s'éteindre. Mais il retenait encore son âme pour qu'elle servît au triomphe de Christ. Porté par les soldats devant le tribunal, où l'accompagnèrent tous les magistrats de la cité et toute la populace qui le poursuivait de ses clameurs, il rendit, comme s'il eût été le Christ lui-même, le plus éclatant témoignage. À la question du gouverneur qui lui demanda ce qu'était le Dieu des chrétiens, il répondit « Si tu en es digne, tu le connaîtras. » Il fut aussitôt enlevé sans aucun respect humain et accablé de coups. Ceux qui se trouvaient le plus près de lui l'assaillaient outrageusement des pieds et des poings, sans le moindre égard pour son âge. Ceux qui étaient plus loin lui jetaient tout ce qui leur tombait sous la main. Ils se seraient tous crus coupables du plus grand délit s'ils ne s'étaient appliqués, chacun pour son compte, à l'insulter brutalement. Ils croyaient venger l'injure de leur dieu. Potin, respirant à peine, fut rejeté dans la prison, et deux jours après, il rendit l'âme. Alors éclatèrent une singulière dispensation de Dieu et l'immense miséricorde de Jésus-Christ, exemple rare entre frères, mais en accord avec la pensée et la justice du Seigneur. Tous ceux qui, dès la première arrestation, avaient renié leur foi, furent mis eux-mêmes en prison et livrés aux mêmes souffrances que les autres martyrs, car leur reniement ne leur servit de rien. Ceux qui avaient fait profession d'être ce qu'ils étaient réellement, c'est-à-dire chrétiens, étaient emprisonnés sans qu'on les accusât d'aucun autre crime. Les premiers, au contraire, étaient détenus comme des homicides et des scélérats, souffrant ainsi un double supplice. Les uns se reposaient dans la digne joie du martyr, l'espoir de la béatitude promise, l'amour de Christ et l'esprit de Dieu le Père. Les autres étaient en proie aux reproches de leur conscience. Il était facile de les distinguer les uns des autres à leur aspect. Les uns marchaient avec hilarité, portant sur leur visage une majesté mêlée de douceur, et leur lien même semblait pour eux un ornement, comme les broderies qui parent une épouse. Les autres, les yeux baissés, l'air humilié et abject, étaient l'objet du mépris des gentils eux-mêmes, qui les regardaient comme des lâches qui avaient perdu le nom glorieux et salutaire de chrétiens. Aussi ceux qui assistaient à ce double spectacle en étaient singulièrement raffermis. Et si l'un d'entre eux venait à être arrêté, il confessait sa foi sans retard ni hésitation. Les choses venues à ce point, différents genres de morts furent infligés aux martyrs, et ils eurent à offrir à Dieu une couronne formée de diverses fleurs. Il était juste que les plus vaillants champions, ceux qui avaient soutenu un assaut redoublé et remporté une insigne victoire, reçussent une brillante couronne d'immortalité. Le néophyte Maturus et le diacre Sanctus, avec Blandine et Attal, furent donc conduits dans l'amphithéâtre et livrés aux bêtes, en spectacle à l'inhumanité des gentils. Maturus et Sanctus subirent là tous les genres de tourments, comme s'ils n'avaient encore rien souffert, ou plutôt comme des athlètes qui ont déjà vaincu plusieurs fois et qui combattent pour la couronne suprême. Ils bravèrent les coups dont on les flagellait, les morsures des bêtes qui les traînaient ça et là, et tout ce que commandait par ces clameurs une multitude insensée, d'autant plus furieuse que par aucun moyen elle ne parvenait à vaincre la fermeté des martyrs, ni à arracher de Sanctus aucune autre parole que celle que, dès le premier jour, il avait prononcée « Je suis chrétien ». Après ce terrible combat, comme leur vie se prolongeait encore, ils furent enfin égorgés, donnés ainsi ce jour-là seul en spectacle au monde, au lieu de la variété qui se rencontrait dans les combats des gladiateurs. Blandine, à son tour, attachée à un poteau, fut livrée aux bêtes. On la voyait comme suspendue à une sorte de croix, invoquant Dieu avec une ferveur confiante, et les frères qui assistaient à ce combat croyaient retrouver dans la personne d'une sœur celui-là même qui avait été crucifié pour leur salut. Comme aucune bête ne toucha le corps de Blandine, elle fut détachée du poteau, ramenée en prison et réservée pour un autre combat. Attal, dont le peuple réclamait violemment le supplice comme un homme célèbre, s'avança, prêt à tout braver, un homme qui se confie dans les souvenirs de sa vie, car il s'était courageusement exercé à la discipline et il avait toujours rendu parmi nous témoignage à la vérité. On le promena tout autour de l'amphithéâtre, précédé d'un tableau portant cette inscription en langue latine « Celui-ci est Attal le chrétien ». Le peuple le poursuivait des plus violentes clameurs, mais le gouverneur, ayant appris qu'il était citoyen romain, le fit ramener en prison avec les autres. Ayant ensuite écrit à César, il attendit sa décision sur tous ceux qui étaient ainsi détenus. Ce retard ne fut point inutile ni infructueux, car alors brilla l'immense miséricorde de Christ. Ceux des frères qui n'étaient plus que des membres morts de l'Église furent rappelés à la vie par les soins et les secours des vivants. Les martyrs firent grâce à ceux qui avaient renié, et la joie fut grande dans l'Église à la fois vierge et mère, car elle retrouva vivant ce qu'elle avait rejeté comme mort. Ainsi ressuscitée et fortifiée par la bonté de Dieu, qui ne veut pas la mort du pécheur, mais l'invite bien plutôt au repentir, ils se présentèrent devant le tribunal pour être interrogés de nouveau par le gouverneur. César avait répondu que ceux qui se confesseraient chrétiens devaient être frappés du glaive et ceux qui renieraient renvoyés sains et saufs. Vint le jour du grand marché où se réunit une nombreuse foule venue de toute nation et de toute province. Le gouverneur fit amener devant son tribunal les bienheureux martyrs, les exposant devant le peuple avec une pompe théâtrale. Il les interrogea de nouveau. Ceux qui furent reconnus citoyens romains eurent la tête tranchée, les autres furent livrés aux bêtes. Une grande gloire revint à Christ par ceux qui avaient d'abord renié leur foi et qui maintenant la confessèrent contre l'attente des gentils. Ceux qui, interrogés à part, se déclarèrent chrétiens, furent ajoutés au nombre des martyrs. Ceux en qui ne reparurent aucun vestige de foi, ni aucun sentiment de crainte de Dieu, restèrent en dehors de l'Église. Quand on traita de ceux qui lui furent réunis, un certain Alexandre, phrygien de nation, médecin de profession, qui habitait depuis plusieurs années en Gaule, homme bien connu de tous pour son amour de Dieu et sa libre prédication de la foi, se tenait dans la salle du tribunal, exhortant par ses signes tous ceux qui la remplissaient à confesser leur foi, comme s'il eût été chargé de les accoucher. La multitude, irritée de voir que ceux qui avaient d'abord renié revenaient à proclamer leur croyance, commença à se récrier contre Alexandre, qu'elle accusa de cette conversion. Le gouverneur lui demanda aussitôt ce qu'il était, et sur sa réponse « Je suis chrétien », il le condamna aux bêtes. Le lendemain, Alexandre fut ramené avec Attal, que le gouverneur, pour plaire au peuple, avait de nouveau livré aux bêtes. Après avoir souffert tous deux dans l'amphithéâtre tous les tourments qu'on put inventer, ils furent frappés du glaive. Alexandre ne proféra pas une plainte, pas une parole. Il avait l'air de s'entretenir intérieurement avec Dieu. Attal, placé sur un siège de fer et pendant que le feu consumait son corps, dit en latin au peuple « Voilà ce que vous faites, c'est en réalité dévorer des hommes. Nous, nous ne dévorons point des hommes et nous ne faisons absolument rien de mal. » On lui demanda quel était le nom de Dieu. « Dieu n'est pas comme nous autres mortels, dit-il, il n'a point de nom. » Après tous ces martyrs, le dernier jour des spectacles, Blandine fut ramenée avec un jeune adolescent, Ponticus, âgé d'environ 15 ans. Ils avaient été amenés tous les jours auparavant pour qu'ils vissent les tourments de leurs compagnons. Sommés de jurer par les autels des gentils, ils restèrent fermes dans leur foi, ne tenant nul compte de ces prétendus dieux, et telle fut contre eux la fureur de la multitude qu'elle n'eut aucune pitié pour l'âge de l'enfant, ni aucun respect pour le sexe de la femme. On les accabla de tortures, on les promena à travers tous les genres de supplices, on n'obtint point ce qu'on voulait. Soutenu par les exhortations de sa sœur, que voyaient et entendaient les gentils, Ponticus, après avoir tout enduré généreusement, rendit l'âme. Blandine, la dernière de tous, comme une noble mère qui a enflammé le courage de ses fils pour le combat et les a envoyés vainqueurs à leur roi, repassa par toutes les tortures qu'ils avaient souffertes, pressée d'aller les rejoindre et triomphante à chaque pas vers la mort. Enfin, après qu'elle eut subi les flammes, les griffes des bêtes, les aspersions poignantes, on l'enveloppa dans un filet et on la jeta devant un taureau qui la lança en l'air de ses cornes. Elle ne sentait déjà plus ce qui lui arrivait et paraissait tout entière absorbée dans l'attente des biens que Christ lui réservait. On l'égorgea enfin comme une victime. Les gentils eux-mêmes avouaient qu'il n'y avait jamais eu une femme qui eût tant et si longuement souffert. Leur fureur et leur cruauté envers les saints n'en furent point apaisées. Ils inventèrent une autre manière de sévir contre eux. Ils jetèrent aux chiens les corps de ceux qui étaient morts, suffoqués dans la prison, et ils veillaient jour et nuit pour empêcher qu'aucun de nos frères vînt les ensevelir. Quant à ceux qui restaient des corps à moitié déchirés ou consumés des martyrs, ils les laissèrent exposés sous la garde des soldats, venant les regarder avec insulte et disant « Où est leur Dieu ? Que leur a servi cette religion à laquelle ils ont sacrifié leur vie ?» Nous étions accablés de douleur de ne pouvoir ensevelir ces pauvres cadavres. Ni les ténèbres de la nuit, ni l'or, ni les supplications ne nous y firent réussir. Après avoir été ainsi exposés pendant 6 jours en plein air, livrés à toutes sortes d'outrages, les corps des martyrs furent enfin brûlés, réduits en cendres et jetés çà et là par les impies dans les flots du Rhône, pour qu'il n'en restât absolument rien sur la terre. Ils agissaient comme s'ils eussent été plus puissants que Dieu et qu'ils pussent enlever à nos frères la résurrection. « C'est, disaient-ils, dans cette espérance que ces gens-là nous apportent une religion nouvelle et étrangère, qu'ils méprisent les plus douloureux tourments et vont avec joie au-devant de la mort. Voyons s'ils ressusciteront. » Si Dieu viendra à leur secours et s'il pourra les arracher de nos mains. » Ce n'est pas sans un douloureux effort que, même après 18 siècles, on se résigne à assister en pensée à de tels spectacles. On a peine à croire qu'entre des hommes du même temps et de la même ville tant de férocité se puisse déployer aux prises avec tant de courage et que la barbarie ait sa passion contre la passion de la vertu. C'est pourtant là l'histoire, mes enfants, et il faut la connaître telle qu'elle s'est réellement passée. D'abord pour savoir la vérité, ensuite pour apprécier la vertu, tout ce qu'elle vaut d'après tout ce qu'elle coûte d'efforts et de sacrifices. Aussi pour apprendre quels obstacles sont à surmonter, quelles luttes à soutenir et quelles souffrances à endurer quand il s'agit d'accomplir de grandes réformes morales et sociales. Marc Aurèle était à coup sûr un souverain vertueux et qui avait à cœur d'être juste et humain. Mais c'était un souverain absolu, c'est-à-dire exclusivement nourri de ses propres idées, très mal instruit des faits sur lesquels il avait à décider et point averti par la liberté publique des erreurs de sa pensée ni des résultats pratiques de ses volontés. Il ordonna la persécution des chrétiens sans savoir ce qu'étaient les chrétiens ni ce que serait la persécution, et ce philosophe consciencieux déchaîna à Lyon contre les plus consciencieux de ses sujets la docilité empressée de ses agents et les passions atroces de la multitude. La persécution des chrétiens ne s'arrêta ni à Lyon ni à Marc Aurèle. Elle devint, durant le IIIe siècle, la pratique habituelle des empereurs dans toutes les parties de l'Empire. De l'an 202 à l'an 312 de Jésus-Christ, sous les règnes de Septime Sévère, Maximin Ier, Dèce, Valérien, Aurélien, Dioclétien, Maximien et Galère, on compte six grandes persécutions générales, sans parler de quelques autres plus bornées ou plus légères. Les empereurs Alexandre Sévère, Philippe l'Arabe et Constance Chlore firent à peu près seule exception à ce cruel régime, et presque toujours, partout où il était ordonné, la multitude païenne, brutale ou fanatiquement superstitieuse, joignait aux rigueurs impériales ses atroces et cyniques fureurs. Mais le zèle chrétien surpassa en persévérance et en efficacité les persécutions païennes. À Saint-Potin, martyr, succéda comme évêque à Lyon Saint-Irénée, le plus docte, le plus judicieux et le plus illustre des premiers chefs de l'Église dans la Gaule. Originaire de l'Asie mineure, peut-être de Smyrne, il était venu en Gaule, on ne sait pas précisément à quelle époque, et il s'était établi comme simple prêtre dans le diocèse de Lyon, où il ne tarda pas à exercer une grande influence, soit sur les lieux mêmes, soit par les diverses missions qui lui furent confiées, entre autres à Rome, dit-on, auprès du pape Saint-Éleuthère. Évêque de Lyon de l'an 177 à l'an 202, il employa ses 25 années à propager en Gaule la foi chrétienne et à défendre par ses écrits la doctrine chrétienne contre les dissensions qu'elle avait déjà subies en Orient et qui commençaient à pénétrer en Occident. En 202, dans la persécution de l'empereur Septime Sévère, Saint-Irénée couronna par le martyr son active et puissante vie. Ce fut à son épiscopat que commença ce que je me permettrai d'appeler l'essaim de missionnaires chrétiens qui, vers la fin du IIe et pendant le IIIe siècle, se répandirent dans toute la Gaule, prêchant la foi chrétienne et fondant des églises. Les uns partirent de Lyon sous l'impulsion de Saint-Irénée, les autres de Rome, spécialement sous le pontificat du pape Saint-Fabien, martyr lui-même en 249, Saint-Félix et Saint-Fortunat à Valence, Saint-Féréol à Besançon, Saint-Marcel à Chalon-sur-Saône, Saint-Bénigne à Dijon, Saint-Trophime à Arles, Saint-Paul à Narbonne, Saint-Saturnin à Toulouse, Saint-Martial à Limoges, Saint-Andéol et Saint-Privat dans les Cévennes, Saint-Ostremoine à Clermont-Ferrand, Saint-Gatien à Tours, Saint-Denis à Paris, et tant d'autres dont les noms ne sont plus guère connus que dans les histoires érudites ou sur les lieux mêmes où ils ont prêché, lutté et vaincu, souvent au prix de leur vie. Tels ont été les fondateurs de la foi et de l'Église chrétienne en France. Au commencement du IVe siècle, leur œuvre était, sinon accomplie, du moins victorieuse. Et lorsqu'en 312, Constantin se déclara chrétien, il constata le fait de la conquête du monde romain, de la Gaule en particulier, par le christianisme. Probablement, la majorité des habitants n'était pas encore chrétienne, mais c'était évidemment aux chrétiens qu'appartenaient l'ascendant et l'avenir. Des deux grands éléments qui devaient concourir sur les ruines de la société romaine à la formation de la société moderne, l'élément moral, la religion chrétienne, avait déjà pris possession des âmes. Le territoire dévasté attendait les peuples nouveaux, connus dans l'histoire sous le nom général de Germains, et que les Romains appelaient les barbares.